comment lire les prophéties et voir un peu que c'est un exercice difficile. Je vais vous montrer que c'est difficile. Ce n'est pas pour dire que c'est impossible, mais c'est pour dire que, il faut s'accrocher, que la prophétie, ce n'est pas si simple que ça, que c'est plus compliqué qu'un manuel Ikea. Et déjà, avec un manuel Ikea, on met les mauvaises planches ensemble. Alors, vous imaginez qu'avec la Bible, hein. J'ai envie de dire aussi, personne n'est neutre dans cet exercice-là. Et par exemple, moi, je ne suis pas superstitionniste, donc oui, j'accorde une valeur à une lecture simple des prophéties littérales, quand c'est possible. Mais je tiens aussi compte des métaphores, etc. Donc, je vais sans doute orienter, je ne vais pas parler de tous les débats qu'il y a sur chaque texte, sinon on n'en a pas fini. Mais j'ai envie qu'on voit ensemble certaines prophéties, notamment Michée 4, qui nous montrent toute la complexité. Voilà, de compréhension. Mais on va commencer avec Ésaïe. Ésaïe 24 à 27, c'est ce qu'on appelle la petite apocalypse. C'est un passage, c'est tout un ensemble de chapitres où Ésaïe compare la ville des hommes, la ville du chaos, on va dire le monde des hommes, et la cité idéale de Dieu. Et puis dans Ésaïe 25, c'est le grand passage d'un festin que Dieu organise dans cette nouvelle cité qu'on arrive à identifier grâce aux passages précédents qui suivent, avec Sion, une Sion de l'avenir. Et qu'est-ce qu'il dit de cette Jérusalem de l'avenir? Que Dieu engloutira la mort pour toujours, qu'il essuiera les larmes de tous les visages. Ésaïe 25, 7 à 8, juste des extraits. Mais si on va dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse lit cette prophétie d'Ésaïe, pas du tout en lien avec une Jérusalem terrestre et une Sion restaurée, mais avec la nouvelle Jérusalem. Je lis ce qui est dit dans Apocalypse 21. Il cite pas, mais c'est une allusion évidente à Ésaïe. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. C'est ce qu'on lit très souvent aux enterrements, hein, autour de la tombe. On se rappelle la promesse. Mais voyez déjà quelqu'un qui commencerait avec Ésaïe 25, qui dit, ben voilà, il y aura la Jérusalem, et dans Jérusalem terrestre, Dieu va essuyer les larmes des yeux. Ben, le Nouveau Testament dit, non, non, c'est bien après, dans les temps éternels. Donc, il faut se laisser un tout petit peu bousculer, en se disant, ben voilà, ma grille d'interprétation normale, elle est littérale, etc., mais l'Apocalypse se permet de faire une lecture moins littérale. Alors, voyons la Jérusalem future dans Michée 4. Alors, c'est intéressant parce que Michée 4, 1 à 5, est identique quasiment pour moi à Ésaïe. Alors, j'ai mis 4, c'est faux, c'est 2, 2 à 4. Excusez, je corrigeais mon truc. Ça, j'ai fait une faute, j'ai commis une faute. Michée et Ésaïe, ils ont vécu à la même époque. Ésaïe était plutôt le prophète proche du roi, on va dire de l'aristocratie de Jérusalem. Michée, c'est le prophète du peuple. Il s'est beaucoup battu, il revendique plus, il se bat contre les inégalités sociales de l'époque, alors Ésaïe aussi. Mais là, on voit que les deux prophètes, alors il n'y a aucun endroit dans la Bible où on les voit se rencontrer, mais là, ils ont quelques versets de prophétie, de prédiction commune. Qui a copié sur qui? Je ne suis pas sûr que c'est Michée qui a copié sur Ésaïe, pourquoi pas Ésaïe piqué sur Moïse. Mais bon, moi, il y a l'idée qu'ils étaient dans la même communion. Alors, juste avant ce passage qu'on va lire, Michée a dénoncé la corruption des chefs, des prêtres, des prophètes de Jérusalem. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, il n'y a pas que Jésus qui faisait ça. Et qu'est-ce que c'est les chefs, prêtres et prophètes de Jérusalem? C'est les trois pouvoirs que Dieu a établis dans son peuple, hein. Le pouvoir royal, le pouvoir des prêtres, sacerdotal, comme on dit, et le pouvoir prophétique. Et normalement, ces trois pouvoirs s'équilibrent. Le roi est chargé de conduire le pays selon la volonté de Dieu. Les prêtres de transmettre la loi et de l'instruire le peuple, et les prophètes pour parler de la part de Dieu au pouvoir, pour le guider, mais aussi pour le reprendre. C'est pour ça que les rois et les prophètes, ça ne doit pas être les mêmes dans ce système. C'est pour ça que nous, c'est un de mes arguments, l'Église aujourd'hui, c'est une Église de prophètes. Nous ne sommes pas appelés à être des rois. Nous ne sommes pas appelés à régner, nous sommes appelés à être des interpelleurs du monde. Et nous devons interpeller le monde et nous devons être prophétiques dans ce rôle-là. Et si nous nous mettons à régner, qui va nous interpeller? Vous voyez? Bien sûr, Jésus, lui, on parle des trois offices, hein, du Christ, il va culminer dans sa seule personne l'office de roi, de prêtre et de prophète. Et les trois sont annoncés dans l'Ancien Testament et les trois se réalisent en Jésus. Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, il est le roi, le fils de David, et il est le prophète annoncé par Moïse dans Deutéronome 18, un autre prophète viendra comme moi, vous l'écouterez. Voilà. Bien sûr, l'islam dit que c'est Mahomet, mais bon, ils viennent un peu tard, ils ont sept siècles de retard. Ils ont essayé de boucher la porte dorée pour que le Messie n'entre pas à Jérusalem, ils ont juste 600 ans de retard. Hein. Il est déjà passé, Jésus, depuis bien longtemps. Mais on va les laisser dans leur idée. Alors voilà ce que dit Michée 4.1, je suis dans la Nouvelle Bible Seconde, c'est la traduction la plus littérale qu'on puisse avoir et qui soit moderne. Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines et les peuples y afflueront. Alors la montagne de la maison du Seigneur devient positivement la tête ou le sommet des montagnes et s'élève au-dessus des collines. Ça continue, donc c'est Jérusalem hein, ça. Une multitude des nations s'y rendra, ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers, car de Sion sortira la loi de Jérusalem, la parole du Seigneur. » Alors la montagne d'Adonai, la montagne du Seigneur, c'est une expression qu'on trouve ailleurs dans la Bible pour désigner le Sinaï, la montagne de la loi, là où Dieu s'est révélé et a donné la loi à Moïse et à Israël. Donc là, on a une espèce de mélange d'images, c'est que la Jérusalem future va devenir un nouveau Mont Sinaï, d'où sortira la loi de l'Éternel. Vous voyez, on parle de nouvelle alliance, de quelque chose de nouveau. Et donc, puisque l'alliance de la loi a été conclue au Sinaï, l'alliance, la nouvelle alliance du futur, annoncée par Michée, aura lieu à Jérusalem. Et on peut noter que ce n'est pas seulement avec le peuple d'Israël que sera conclue l'alliance, mais avec une multitude de nations. Et donc, il y aura une dimension universelle de cette alliance nouvelle, qui montre donc qu'il y aura un changement d'alliance et la fin de l'ancienne alliance, un passage de l'alliance du Sinaï à la nouvelle alliance. On continue encore, versets 3 et 4. « Il, alors c'est le Seigneur, on peut penser à Jésus, bien sûr. Il sera juge entre une multitude de peuples. Il sera l'arbitre de nations fortes, même lointaines. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre. On n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. C'est la bouche d'Adonai Tsevaot, le Seigneur des armées, qui parle. » Donc le Seigneur juge et arbitre parmi les nations. Et c'est le Seigneur qui est roi. C'est Adonai qui est le roi. Hein. Imaginez un prophète qui annonce, on a des rois de la ligne davidienne, hein, des descendants de David. Et là, tout à coup, c'est Yahvé, Adonai, qui est roi à Jérusalem. C'est comme une idée, hein, un saut, hein, que nous, on ne se rend même pas compte. Hein. Les armes changées en outils, la disparition de la guerre, une situation paisible, ça montre qu'il y a un changement profond de l'humanité. Il y a quelque chose qui s'est passé, l'humanité n'est plus en conflit. Et donc ça implique une transformation intérieure. Littéralement, il est dit « nul ne fera trembler hein, », voilà, à la fin, « personne ne pourra les troubler ». Et c'est intéressant parce qu'Ésaïe 34, 28 utilise aussi cette expression pour le futur règne messianique. Je ne vais pas entrer en détail. Mais donc, on voit que Ézéchiel vient bien plus tard hein, que Michée. Ézéchiel, ça date du 7e siècle. Michée, c'est le 8e. Donc, il y a 130 ans entre les deux. Hein, et Ézéchiel reprend. On voit qu'il y a les prophètes s'inspirent les uns des autres. Ils reçoivent ce que les autres ont dit et poussent plus loin la pensée ou la confirment. Hein. Ça, c'est toute la Bible qui fait comme ça. Puis à la fin, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom d'Adonai, pour toujours et à jamais. Là, il y a vraiment une affirmation de fidélité au Seigneur par rapport aux peuples qui suivent d'autres dieux. Mais la grande question, c'est, attends, est-ce que c'est dans l'avenir qu'il y a encore des peuples qui suivront d'autres dieux ou c'est maintenant, du temps de Michée, qu'il y a les peuples qui suivent d'autres dieux et nous suivons le Seigneur voilà. Petit problème, vous voyez, entre qu'est-ce qui est futur, qu'est-ce qui est maintenant. Qu'est-ce que le prophète annonce et l'hébreu permet les deux. Hein, parce que, vous savez, l'hébreu, par exemple, l'inaccompli hébreu, ça parle à la fois du présent régulier ou du futur. C'est quelque chose qui n'est pas fini. Voilà. Juste lancer quelques pistes. Donc j'ai vraiment abordé ça. C'est clair, en classe, nous on voit ça beaucoup plus précisément, parce que ça demande. Mais c'est juste pour vous poser des questions. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment lire ce texte? Si on est littéraliste, ça va arriver exactement comme ça, on a quand même un problème. Parce qu'il y a des éléments métaphoriques qui sont impossibles physiquement. Déjà, que la montagne de Sion soit au-dessus de toutes les montagnes en altitude. D'abord, on entrerait en tension, par exemple, avec Ésaïe 40, qui dit que toutes les montagnes seront aplanies par rapport à la venue du Seigneur. Et il faut prendre en compte que les quatre évangiles lisent derrière cette prédiction que toutes les montagnes seront aplanies. Le Nouveau Testament, les évangiles le lisent complètement métaphoriquement, puisque c'est le ministère de Jean-Baptiste qui prépare les cœurs pour la venue de Jésus. Donc, vous voyez, vous avez une prophétie dans Ésaïe 40 qui dit que Dieu va rendre les montagnes plates. Le Nouveau Testament dit, mais ce n'est pas les montagnes physiques qui vont être plates, c'est Jean-Baptiste qui va rendre l'accès à Jésus, ouvrir l'accès au Christ. Vous voyez comment le Nouveau Testament lit l'Ancien? Ce n'est pas si littéral que ça. Mais pas du tout dans ce cas-là. Et donc ici, cette élévation de la montagne, qui est à la fois donc, entre la ville et la montagne de Dieu, c'est une réalité qui se confondent. Mais Jérusalem ne va pas monter à 10 000 mètres d'altitude. On n'est pas, je veux dire, pas d'air. Je veux dire, si on est sur cette terre, ça ne va pas marcher. Ou il faut rajouter des charrettes entières de nouveaux miracles, hein, de température, d'oxygène, pour que ça marche. Et ça, quand on commence à rajouter des miracles au texte biblique qui n'en parle pas, ça pose problème. Donc restons humbles et dire, c'est pas purement littéral ce truc. Mais si on est dans le symbolique, ah, c'est purement l'église du futur spirituel, ben il faut quand même admettre qu'il y a des éléments littéraux à la prophétie. Jérusalem, oui, elle a été le lieu déjà de l'établissement de la nouvelle alliance. Hein? La croix de Jésus a eu lieu à Jérusalem, sa résurrection a eu lieu à Jérusalem, la Pentecôte, la venue de l'Esprit. L'afflux des nations ou des Juifs de toutes les nations a eu lieu à la Pentecôte, à Jérusalem. La dispersion et l'impact de l'Évangile est parti de Jérusalem vers toutes les nations. Donc, même si on est métaphorique, même si on dit des éléments voilà, artistiques, le message, c'est bien de Jérusalem que partira la nouvelle alliance, qui a comme une nouvelle loi, et Jésus est quand même le nouveau Moïse. Vous savez, le sermon sur la montagne, il monte sur une montagne et il l'annonce et il explique la loi. Il prend la place de Moïse, Jésus, c'est un nouveau Moïse, et qui nous explique bien la loi, peut-être de manière moins tordue que certains de son temps. Donc on ne peut pas partir dans la métaphore si on réalise qu'il y a des éléments factuels qui sont arrivés et que Michée a annoncé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit notre interprétation, on est obligé de faire des concessions à des métaphores ou au contraire à des éléments littéraux, et que c'est mélangé chez le prophète, et qu'on n'est pas savoir tirer le trait, dire ça c'est purement spirituel, ça c'est terrestre, c'est pas si simple que ça. J'ai d'autres textes, bien sûr, je pourrais parler du fleuve qui jaillit du temple, hein, dans Zacharie 14, on trouve notamment qu'un fleuve jaillira du temple, il ira purifier la mer morte et la mer Méditerranée. Jésus, le jour où on commémore cette prophétie, c'est Jean 7, hein, à la fête des tabernacles, il est sur le parvis du temple. Il faut savoir que les prêtres prenaient, je ne sais pas dans mes notes, donc, prenaient une cruche d'eau à Siloé et tous les jours allaient verser de l'eau sur le parvis du temple pour se rappeler qu'un jour un fleuve jaillirait du temple. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, qu'il vienne et qu'il boive, car des fleuves jailliront de son sein, et ce n'est pas du sein du croyant, c'est du Seigneur. Et il fait une référence à ces prophéties. Et pour Jésus, le fleuve qui jaillit du temple, c'est le Saint-Esprit. Et si on lit bien Jean, l'eau est le symbole de l'Esprit. Hein, si quelqu'un n'est pas né d'eau d'Esprit, il y a l'eau vivante. Et Jésus dit, là, des fleuves d'eau vivante jailliront du cœur du Seigneur pour celui qui vient boire. Et on trouve cette image chez Jean à la fin, dans l'Apocalypse, où dans la Nouvelle Jérusalem, un fleuve jaillira d'auprès du peuple, d'auprès de Dieu et de l'agneau, un fleuve d'eau vivante. Et ça, c'est vraiment une vision de l'Esprit qui procède du Père et du Fils, et qui jaillit d'auprès du Père et du Fils. et qui vient donner la guérison des nations. Toutes ces images-là sont rapportées à l'éternité dans une vision, alors la Nouvelle Jérusalem, pour le moins métaphorique. Hein, voilà. Juste pour vous dire, alors pour Michée 4, on revient, ça s'accomplit quand ? Ça va bien plus loin qu'un retour d'exil babylonien, cette histoire. Je dirais même, il n'y a pas grand-chose du retour de l'exil babylonien, de la restauration de la nation juive du temps des Perses. Est-ce qu'il s'agit de l'instauration de la Nouvelle Alliance ? On a vu qu'il y a des éléments troublants qui vont dans ce sens. Ça, tout a bien commencé à Jérusalem. Et en même temps, ce qui a commencé à Jérusalem, y compris la Pentecôte, est rattaché au temps de la fin. C'est comme intéressant quand Pierre explique ce qui arrive à la Pentecôte. Il cite le prophète Joël, mais il dépasse les quelques versets sur l'effusion de l'esprit et de la prophétie. Et il parle de bouleversements cosmiques, qu'il y aura des éclipses et des choses. Donc Pierre, il voit bien qu'il y a une continuité entre la Pentecôte et puis les événements derniers. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un mélange. Hein. Dans Malachi 3, 1 à 3, pour prendre un exemple, il y a une prédiction qui évoque la venue des deux messagers, qui sont Jean-Baptiste et Jean. Le premier messager ouvre la porte à l'autre, et le second messager de l'Alliance, Seigneur que cherche Israël, entrera dans son temple pour en purifier les prêtres et ouvrir un temps de communion restaurée avec Dieu où l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable au Seigneur. Jean-Baptiste et Jésus correspondent à cette prédiction. Et ils vont instaurer. Donc il y a quelque chose de bien qui s'instaure, quelque chose de bien qui arrive à Jérusalem dans le futur, qui fait partie du futur de Michée, du futur de Malachie, hein, et qui s'accomplit. Donc j'ai envie de dire, Michée 4, oui, il y a des choses qui touchent à la Nouvelle Alliance et à cette loi qui jaillit de la cité de Dieu, de la maison de Dieu. Mais on peut se poser des questions, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose lié au millénium terrestre, un accomplissement encore plus grand, qui correspond encore plus à cette pensée. Notamment, pendant 1000 ans, où les justes ressuscités, prêtres de Dieu et du Christ, régneront, c'est Apocalypse qui le dit, Apocalypse 24, que les ressuscités, prêtres de Dieu et du Christ, régneront, et que toutes les nations viendront, et qu'à la suite de cela, les morts reviendront à la vie. Il me semble, si on fait une lecture, on garde une littéralité à ce passage, eh ben on peut tout à fait trouver, alors on peut débattre hein, longtemps, mais on peut trouver des éléments qui touchent à un millénium. Et puis, est-ce que finalement ça ne toucherait pas aux temps éternels aussi, Michée 4 ? Parce que la montagne qui s'élève, eh ben dis donc, si vous regardez la Nouvelle Jérusalem, vous savez quelle taille elle fait ? 2000 km de côté et d'hauteur. L'Everest, c'est 9 km. L'Everest, c'est 200 fois moins, plus que 200 fois moins que la Nouvelle Jérusalem en hauteur. Je n'ai pas envie d'avoir les appartements en hauteur. Sauf si on est sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux où les conditions de vie seront différentes. Donc l'Apocalypse 21 nous parle d'une montagne. D'ailleurs, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Elle est le temple, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Il y a une sorte de réconciliation entre l'homme et Dieu parce que la Nouvelle Jérusalem redevient ce qu'était le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, alors si une fois vous venez faire enseigner sur la Genèse, je le fais volontiers, mais je vais me faire lapider parce que là aussi j'ai une lecture qui n'est pas forcément la plus littéraliste. Le Jardin d'Éden qui est ouvert à l'est, qui est protégé par des chérubins à l'est, c'est un temple. Et Dieu établit son alliance avec l'homme, et il n'y a pas besoin de prêtre, parce que vous dire l'homme est le prêtre, mais je veux dire il n'y a pas de séparation parce que tout va bien. Et puis après l'homme se fait chasser du jardin, les chérubins qui étaient dans la mythologie de façon des environs, les kérouves étaient, y compris les caribous comme ils les appelaient chez les Acadiens, c'était les gardiens des temples. Et donc l'homme peut plus rentrer dans ce lieu d'alliance et dans ce temple. Mais la thématique du temple traverse la Bible. Le temple, le tabernacle de Moïse et des Juifs dans le désert, comme le temple de Jérusalem, est ouvert à l'est. Et ce n'est pas les chérubins qui protègent, c'est les Lévites ou les prêtres. Mais on retrouve cette thématique. Mais à la fin de la fin de la fin, le temple est ouvert. Il n'y a plus de temple parce que c'est la cité de Dieu. Il y a réconciliation entre l'humanité et Dieu. Voilà. Puis l'afflux des nations, on en parle aussi dans Apocalypse 21. Donc ce qu'on trouve dans Michée 4 est reflété. Donc vous voyez, c'est une prophétie à plusieurs rebondissements, j'ai envie de dire. Nouvelle alliance, millénium pour ceux qui y croient, et temps éternel. Et même quel que soit son système, il y a au moins deux applications différentes, deux temps différents dans ce qu'annonce Michée. Mais ça montre la complexité du passage. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut en dire n'importe quoi, mais chacun voit midi à sa porte, on est chacun dans son système théologique, puis on essaie de tirer de son côté ou pas. Pour moi, je pense que ça ouvre à au moins trois temps, et il faut s'en réjouir. Un autre texte alors, bien connu, et que je vais lire de manière très prémillénariste, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas où j'ai fait, je ne sais plus où j'en suis. Ézéchiel, j'ai sauté Ézéchiel, non ? Ouais, carrément. C'est honteux. Ah oui, il y a 4, vous avez 4, 2, 4, 4. Bon, alors vous allez par la foi écouter ce que je vous dis sur Ézéchiel. Ézéchiel 37, ouais, c'est désolé, il faut vraiment que je prêche dessus pour voir que je me suis trompé. Bon, dans Ézéchiel 37, il y a une vision où le prophète voit une vallée remplie d'ossements. Vous connaissez la vallée d'ossements. Il doit prophétiser dessus pour qu'il revive. Et donc le Seigneur dit à Ézéchiel de prophétiser. Il dit, je vais faire entrer en esprit en vous, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis Adonai. Le prophète obéit, les ossements, les corps se reconstituent, mais ils ne sont pas encore vivants, il est dit, il n'y avait pas d'esprit en eux. Donc il y a un premier temps de reconstitution des corps. Et dans le deuxième temps, le Seigneur dit à Ézéchiel de demander à l'Esprit de venir des quatre coins de l'horizon. Et il est dit, l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie, et ils se sont tenus sur leurs pieds. Et le Seigneur explique à son prophète que les ossements sont la communauté d'Israël, et qu'il va ramener les Israélites de leur tombe, car ils sont son peuple. Et ça va bien au-delà du retour de l'exil babylonien. Et la nation unifiée sera dirigée par David, c'est-à-dire le Messie. Je lis Exode 37, versets 24 et suivants. « Mon serviteur David sera leur roi, ils auront un seul berger. Ils suivront mes règles, ils respecteront mes prescriptions, mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon Seigneur Jacob, celui que vos ancêtres ont habité. Ils y habiteront ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants pour toujours. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Alors, en prémillénariste, il verra bien aussi deux temps. La reconstitution physique du peuple d'Israël, de la nation, et sa renaissance spirituelle, dans un deuxième temps. Il y a deux temps. Voilà. Alors c'est clair que c'est compliqué, parce qu'ils auront un seul berger. Jésus fait une allusion à ce verset quand il parle de la parabole du berger, comme étant le bon berger. Il n'y aura plus qu'un seul berger, et là ça a l'air d'être au sujet de l'Église. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on peut toujours tenir une thèse prémillénariste sur ce sujet. Ce qui veut dire qu'on peut recevoir, et d'ailleurs je suis étonné, excusez, je veux quand même voir si je n'ai pas inversé deux slides. J'y crois pas. Ouais, je ne sais pas. Ouais, non, tant pis. On peut voir, en tant que, personnellement, je vois dans la renaissance d'Israël un miracle de Dieu. Je reconnais là personnellement un signe, peut-être le signe le plus probant de la fin des temps, qui est cette reconstitution de l'État d'Israël, mais en tant que chrétien, on verra la fin, je suis dans l'attente de la renaissance spirituelle. On n'y est pas, et il me semble qu'on doit s'y attendre aussi. Et ma prière pour Israël, ça fait depuis 1983 que tous les soirs je prie pour Israël et pour le peuple juif, et je demande la paix de Jérusalem. Ce n'est pas juste une paix humaine, parce que Paul dit que c'est Jésus qui est notre paix, mais je prie pour Jérusalem et pour les Juifs, et j'ai 4 Juifs, ça fait passer 20 ans que je prie pour eux, je ne sais plus ce qu'ils sont devenus. Hein, voilà. Il y a 4 pour qui je prie tous les jours comme des prémices que je demande à Dieu de cette conversion. Donc il faut être dans cette tension, merci Seigneur de l'existence d'Israël, mais on n'est pas du tout dans l'idéal, ce qui me permet d'être critique sur certaines manières de faire, d'un État qui se comporte comme un État, peut-être pas toujours très bien, parfois remarquablement, des choses remarquables en Israël, des choses catastrophiques. Il faut aller sur place. Il faut aller sur place, éviter la propagande d'un côté ou de l'autre, et puis voir ce qui se passe. Il y a des très belles choses, mais il ne faut pas idéaliser. C'est pas si simple que ça. Il y a des Juifs qui repartent d'Israël parce qu'ils ne supportent pas l'ambiance. Et ce n'est pas seulement à cause des méchants arabes qui leur font des crasses, ce n'est pas simple du tout. Et puis il y a des très belles choses qui se font, il y a des progrès scientifiques extraordinaires. Moi qui ai un problème de diabète, j'ai appris qu'ils ont créé maintenant un pancréas artificiel qu'on peut brancher sur n'importe qui, bon c'est encore sur des souris blanches, Mais ça a l'air d'être assez génial. Et je veux dire, ils sont à la pointe, c'est le pays où il y a le plus de start-up, quoi. C'est incroyable. Donc il y a vraiment une créativité, des belles choses, une démocratie avec tous ces OK, c'est quand même une démocratie un peu la seule de la région, il ne faut quand même pas cracher dessus trop vite. Hein. Voilà. Quand on entend tous ces pays arabes qui disent du mal d'Israël, je dis, mais bon, dis donc, si vous étiez un peu plus démocratique, on vous écoutera peut-être un peu plus. Hein. Voilà. Mais cela dit, il y a des moments compliqués. Voilà, et comme je vous ai dit, je suis conscient aussi des combats de mes frères chrétiens arabes. Alors, Israël, peuple de Dieu, appelé à rejoindre le peuple éternel de Dieu. Alors, le supersessionnisme classiquement dit qu'il n'y a qu'une seule Église, que seule l'Église est le peuple de Dieu, et que le peuple juif n'a plus ce titre, c'est plus le peuple de Dieu. Et c'est vrai que le terme ecclésia, qui a donné Église, est la traduction la plus fréquente dans l'Ancien Testament, par l'ancienne traduction grecque de la Septante, du terme kahal, qui a donné Kohelet, celui qui s'exprime, hein, et que ça donne l'Ecclésiaste aussi, qui est l'assemblée cultuelle de Dieu. Et donc, oui, le terme peuple de Dieu, dans le Nouveau Testament, désigne bien l'Église, en bien des lieux. Pierre, par exemple, dans 1 Pierre 2,10, affirme à des païens, vous qui étiez autrefois, qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Il dit ça à des païens, ils ne sont pas devenus juifs. Donc la notion de peuple de Dieu existe pour l'Église. Et puis, à ses tout débuts, on parlait tout à l'heure de Acte 15, le Grand Concile de Jérusalem, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces païens qui deviennent chrétiens, est-ce qu'ils doivent devenir juifs d'abord, se faire circoncire ou pas. Et puis Jacques dit, Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Et là il parle parmi les nations, vous voyez, et on va chercher parmi les nations et on fait un peuple de Dieu avec les nations. Toutefois, c'est un peu rapide, j'ai lu sur Alfred Kuhn, oui, le Nouveau Testament ne parle plus du tout d'Israël comme peuple. Eh bien si, et dans un endroit très crucial, qui est mis sous nos yeux, c'est Romains 11, qui est toute l'histoire de l'olivier. Là, j'ai pris ça, c'est un olivier que j'ai pris en photo à Samarie, si jamais. Je vous recommande Samarie, c'est très joli au printemps. Et voilà comment Paul engage la réflexion sur l'olivier dont Israël a été retranché, qui va être ajouté. Il dit, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Et il parle des Juifs. Certainement pas. Et en effet, je suis moi-même israélite, donc on est vraiment, hein, on est bien dans ce discours-là, on n'est pas en train de parler des païens. Hein. Je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Et connu d'avance veut dire qu'il a élu, c'est pas juste qu'il l'a vu, il l'a choisi. Hein. Et tout son débat, c'est qu'il évoque qu'un reste des Juifs a mis sa foi en Jésus. Et comme il y avait encore des fidèles du temps d'Élie. Donc Paul parle qu'il y a des Juifs qui se convertissent. Hein. Mais le point qui nous intéresse, c'est que Paul souligne que les Juifs sont, dans leur ensemble, d'une certaine façon, c'est ça qu'on va définir, ils sont encore le peuple de Dieu, d'une autre façon que l'Église. Et il souligne l'élection divine d'Israël, connue d'avance de Dieu. Donc il y a quelque chose, il est encore peuple de Dieu, y compris ceux qui ne croient pas. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce groupe humain dont on sait que c'est mystérieux hein, de le définir, mais les Juifs sont le peuple de Dieu et ne sont pas rejetés de Dieu, il les a élus. Il y a une élection des Juifs qui joue quelque part. Au chapitre 9, il a parlé des Israélites, au verset 4, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, tout ça c'est... C'est Israël, les Juifs, mais il fait une différence entre ses privilèges et le statut du peuple de Dieu éternel sauvé par le Christ, ce rassemblement où les différences entre Juifs et pas Juifs ne comptent plus puisque tout est en Christ. Hein. Il souligne que ce ne sont pas, ça c'est Hébreux 9,8, ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme la descendance. Donc il y a vraiment quand même la nouveauté, la plénitude qui est l'Église. Et au chapitre 10, c'est la seule prière de Paul pour la conversion de non-convertis. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. ce qui nous permet, nous aussi, de prier pour les non-croyants. Mais c'est la seule prière. Je me rappelle, un prof, il disait, mais est-ce que c'est juste de prier pour que les gens se convertissent? Parce qu'on trouve aucun exemple. Ah si, il y a quand même Paul qui prie pour ses frères juifs, pour qu'ils se convertissent. Donc nous, nos frères non-juifs, non-convertis, on peut aussi prier pour eux. Mais, j'ai envie de dire pastoralement, on ne peut jamais forcer la conversion de quelqu'un. Ma prière, je demande à Dieu d'éclairer la personne, la toucher, de la bénir. Mais ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de convertir. Et même une fois, vous savez, je prie pour tous ces, plusieurs personnes pour qui je prie tous les soirs. Un soir, je dis, Seigneur, je fais exprès, je prie pour aucun d'eux. Pour que le jour où ils se tournent vers toi, je ne dise pas que c'est grâce à mes prières. Mais c'est grâce à toi. Je veux ôter de ma tête l'idée que ma prière a un pouvoir. Alors que ma prière, c'est justement de m'appuyer sur le pouvoir de Dieu. Donc je me suis interdit en 24 heures, une fois, de prier pour les gens pour que je ne puisse pas ramener à moi-même, disant, ah, j'étais quand même fidèle, hein. Heureusement que j'étais fidèle, heureusement que j'ai bien turbiné avec mon petit vélo de prière. Et puis Jésus, il a heureusement obéi à mon petit jeu religieux. Donc je me suis anti-religieusé, ce qui ne veut pas dire que j'ai réglé tout avec le Seigneur. J'aime bien, je ne crois pas à la puissance de la prière. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la valeur de la prière. Et ce n'est pas ma prière qui va guérir quelqu'un, c'est Jésus. Et si c'est ma prière, je préfère que ce soit Jésus. Vous voyez ? C'est juste pas oublier qui est le Seigneur. Je crois amplement à la valeur de la prière. C'est important de prendre du temps, de jeûner, de prier, de combattre dans la prière, absolument. Mais n'oublions pas qui est celui qui est le Seigneur et qui agit. J'aime bien, de temps en temps, remettre la synagogue au milieu du village. Alors Romain explique que la plupart des juifs sont comparables à une branche qui devrait normalement pousser sur le tronc de la promesse, mais qu'ils se sont en majorité endurcis, mais il annonce en même temps leur retour, qu'un jour ce rameau coupé va rejoindre, revenir sur le tronc, et beaucoup de théologiens, même des amillénaristes, pensent vraiment à un mouvement massif à la fin des temps. Peut-être le mouvement auquel nous assistons, avec des dizaines de milliers de juifs messianiques. Un moment où tout Israël sera sauvé, car le libérateur viendra de Sion et l'écartera de Jacob ses impiétés. Alors je vais vous soumettre une réflexion qui est récente et qui n'est pas aboutie. Je vais vous montrer que je suis en chemin. Donc j'ai peut-être tort dans ce que je vous dis. Mais moi j'entends souvent chez mes frères, pasteurs et autres, que le tronc de l'Olivier c'est Israël. J'ai même lu chez Blocher, Henri Blocher, que le tronc c'est Israël. Mais comment est-ce qu'Israël peut être à la fois le rameau et le tronc? J'ai un problème logique de dire Israël est séparé d'Israël. Ça ne veut rien dire. Quoi? Voilà. Et en fait, si on regarde bien les racines de cet olivier, ces racines, elles vont jusque chez les patriarches. Et on a justement vu qu'Abraham n'était pas juif. Donc ce tronc, il ne commence pas avec Israël. Il est déjà plus profond qu'Israël. Je pense qu'il commence avec Adam. Je pense qu'il commence avec la promesse du jardin, que le descendant de la femme écrasera la tête du serpent. Il y a déjà ce tronc de la promesse. Et j'ai même, on va peut-être partir dans des chemins discutables, mais il y a un autre passage qui parle d'arbre, c'est Jean 15. Souvent, dans nos Bibles, c'est écrit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». C'est faux sur le plan du grec. Jésus dit « Je suis la vigne ». Et vous êtes les sarments. C'est très différent. Parce que la vigne est un des symboles du peuple de Dieu et du peuple d'Israël, comme l'olivier. Et Jésus est en train de dire, c'est moi qui suis Israël. Il y a dans les évangiles le chemin de Jésus, son chemin de vie, dès le moment où il sort d'Égypte, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, qui est un verset d'Osée concernant Israël et l'Exode, mais Jésus vit un nouvel Exode, son baptême, d'eau, un parallèle assez évident avec la traversée de la mer des joncs, puisqu'après il est tenté dans le désert comme Israël, et pendant 40 jours comme Israël pendant 40 ans, etc., etc. Et le cheminement de Jésus, c'est que Jésus, là où le peuple juif, comme le reste de l'humanité, a échoué à cause du péché, fondamentalement, Jésus prend sur lui la destinée du peuple de Dieu et il devient la référence éternelle qui amène au salut, et il est donc la vigne. Et dans cette histoire de la vigne, il dit bien que les rameaux doivent rester et qu'ils risquent d'être coupés s'ils ne collent pas à lui, qu'ils sont brûlés. Donc il y a un avertissement. Et on est dans une image très très proche de l'olivier dont on coupe les branches. Parce que l'olivier aussi. Alors moi je fais un lien, alors peut-être je me trompe, c'est peut-être un lien d'image, je ne devrais pas. Mais je me demande si le tronc, ce n'est pas la promesse du salut ou l'appartenance au peuple sauvé par Jésus, auquel dans le passé il y avait beaucoup de juifs, après les païens se sont rajoutés progressivement, et puis à la fin des temps, on s'attend à une conversion des juifs qui vont réunir ce peuple qui sera dans les temps éternels. Mais tous les juifs ne seront pas sauvés. Quand on dit tout Israël sera sauvé, ce n'est pas que chacun, hein, c'est global. Mais il y a toujours eu pour chacun la. Une responsabilité, un choix à faire, et du temps de Jésus aussi. Jésus a annoncé à certains juifs le risque d'être perdu aussi, la gêne, il l'a annoncé à des juifs aussi. Il ne faut pas non plus penser que... Parce que les juifs croyaient qu'ils étaient sauvés du fait qu'ils étaient juifs, hein. C'est tout le problème de Nicodème. Hein, qui... Un pharisien disait, tu nais sauvé, tu fais partie du peuple de Dieu par la naissance, et maintenant il faut travailler pour rester sauvé. Hein. Et Jésus dit, non, il faut naître d'en haut, il faut être engendré de Dieu, hein, littéralement, il faut que tu sois engendré d'en haut. Puis Nicodème ne comprend rien, il dit, il faut repasser par une naissance physique, parce que lui, pour lui, c'est ça qui établit l'appartenance. Et Jésus dit, mais non, tu n'as rien compris, toi qui es docteur en Israël. Et donc, moi, je pense que le tronc, ce sont les croyants sauvés, avant Israël, longtemps avec Israël, et puis les païens, puis on attend Israël. Donc c'est une réalité qui est bien plus grande qu'Israël, mais Israël a été l'écrin, le peuple choisi par Dieu pour porter cette révélation. Et je pense même que le tronc c'est Jésus, jusqu'à un certain point. Parce qu'il est dit, bon là je vais un peu loin, dans Romains 6:5, il est littéralement dit qu'en croyant en lui, on fait une seule plante. Sum phutos en grec, hein. Sum avec phutos, ça donnait phytothérapie, hein, voilà. Et qu'on fait une seule plante avec Jésus. Cette image de faire une seule plante existe en tout cas. Mais je suis peut-être un peu audacieux, je le concède. Paul affirme, en ce qui concerne l'évangile, les juifs sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. Donc les juifs sont toujours, pour ce qui est du choix divin et des promesses, peuple de Dieu. Il y a donc deux sortes de peuple de Dieu. Il y a le peuple d'Israël, pour qui sont certaines promesses encore, et des promesses faites aux patriarches qui doivent être encore établies. Et il y a le peuple des rachetés, où il y a des juifs et des non-juifs qui sont attachés au Christ. Et ce deuxième peuple, lui, a une dimension éternelle, une vocation éternelle. Le peuple juif, en tant que peuple juif, a une vocation terrestre qui va se finir dès les temps éternels. On va plus faire ces... Il n'y aura plus de différence pour les juifs dans l'éternité. Et au sujet des promesses aux patriarches, je trouve quand même que la promesse de possession du pays est une constante qui traverse la Bible de manière trop forte pour qu'on l'écarte en se disant « non, c'est juste la promesse ». Non, il y a une promesse faite aux patriarches, je crois que j'ai encore un coup à vous faire, voilà, qui demeure et que Jésus a, en un sens, confirmé. Dans les béatitudes qu'il annonce aux Juifs, il dit que les doux hériteront la terre. Alors nous, bien sûr, on est tout de suite l'Église, le monde, etc. Mais Jésus parle à des Juifs. Et il dit que les doux ou les humbles vont hériter. Alors le terme pour la terre désigne aussi le pays. Et moi, je n'ai pas un problème avec de voir dans cette béatitude une application aussi, que ceux qui suivront le Seigneur, eh ben, ils hériteront un jour de la terre d'Israël. Voilà. Et bien sûr, on peut aller plus loin, etc. Il y a aussi une question intéressant, dans Acte 1, juste avant que le Saint-Esprit vienne, alors les disciples se plantent dans leur question, mais il dit, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu... Parce qu'il annonce la venue de l'Esprit, puis il dit, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et Jésus ne répond pas, mais non, il n'y aura pas de restauration du royaume d'Israël. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc il ne nie pas, il ne dit pas c'est faux de vous attendre à la restauration de du royaume d'Israël, mais le temps actuel, c'est le Saint-Esprit et d'être des témoins dans le monde entier. Donc là, c'est typique un argument prémillénariste. Hein, vous voyez, Jésus n'a pas démenti ses disciples sur le fond de leur question. Il les a démentis quant au moment de l'accomplissement. Voilà. Alors on finit, quelle attitude envers Israël? J'ai mis la photo d'Adolf Hutziker, j'ai parlé de lui. C'est quand même fondateur de l'église de réveil de Genève. Il est décédé il y a déjà un moment, hein, il y a 16 ans, quelque chose comme ça. Mais il a été vraiment un des principaux promoteurs de la conscience de notre rapport à Israël et au peuple juif. Puis il a écrit un petit livre qui doit courir à gauche, à droite. Il y a deux, trois exemplaires qui s'appellent « Israël menacé, mais ». Puis on est en pleine période, années 60, avec la guerre des six jours. Et puis il parle, c'est très léger, hein, il parle beaucoup du plan de Dieu pour Israël. Mais ce que je trouve génial, et ça marque sa spiritualité, et je me sens tout à fait en communion avec lui dans son attente, c'est qu'il finit en interpellant de manière prophétique et dans la prière le peuple d'Israël aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit. Je ne vais pas faire sa voix parce qu'on l'imitait toujours en pasteur Holmes. S'il avait une voix, n'est-ce pas, il a failli être acteur. Hein, c'était mais vraiment un très bel homme, hein, c'était impressionnant. Tu ne pourras pas te contenter plus longtemps d'une résurrection matérielle. Oh Seigneur, je recommence. Tu ne pourras pas te contenter plus longtemps d'une résurrection matérielle. Il te faut passer par une résurrection spirituelle. Prépare ton âme, Israël, autant que tes armes. Car le jour vient où tu devras crier à l'Éternel pour ton salut. Oui, le jour approche où tu verras que ce ne sont pas tes vertus et ta force qui pourront te sauver. Au temps de la détresse, ô Jacob, ô royaume sans roi, il faudra bien que tu l'appelles ton Messie, ton roi. Israël, du troisième royaume, en face de la menace qui pèse sur toi, prends courage, réveille ton âme. Le vieux serpent aura bientôt la tête définitivement écrasée par le juste, par le Christ, ton roi qui vient. Ton vrai et définitif salut n'est qu'en lui. Apprends donc à lever les yeux vers lui, car bientôt c'est de lui seul que viendra ton secours. Ça doit être notre prière pour Israël. Ça veut dire aussi que ce ne sont pas les chars d'assaut, ce ne sont pas les alliances avec l'Amérique ou avec je ne sais qui vont sauver Israël. Et comme tous les prophètes, on dira, ce n'est pas dans le char et dans le cheval que sera ton salut, ni dans ton alliance avec l'Égypte ou avec la Syrie, mais c'est dans le Seigneur. Et pour l'instant, reconnaissons que la majorité d'Israéliens ne sont pas intéressés par le Seigneur. Et que je pense que Dieu va faire que la situation va devenir suffisamment compliquée pour qu'ils perdent leurs moyens ou que leurs moyens leur soient futiles face peut-être à un monde qui les opprime, sans doute, et qu'ils doivent un peu se lâcher entre les mains du Seigneur. Je n'ai pas complètement approfondi la question, mais je pense que la dite bataille d'Armageddon n'est pas une bataille, parce que les nations viennent en rang attaquer Israël, mais le Seigneur revient à ce moment-là, Israël se tourne vers lui, et il n'y a pas de bataille, parce que vous lisez le livre de Joël, ce n'est pas une bataille, c'est un jugement des nations. Parce qu'Israël aura renoncé aux armes et aura fait confiance au Seigneur Jésus pour le sauver. Et ce n'est pas par les armes, et Israël n'a jamais gagné par les armes, fondamentalement. Des fois, il a fait des batailles, mais Israël n'a pas gagné par les armes. Et Josaphat a fait avancer les chantres devant l'armée, et il a eu la victoire par le Seigneur. Et c'est ça, ce sera ça le miracle de la résurrection spirituelle d'Israël. À côté de ça, aujourd'hui, Israël est engagé dans des combats, etc. C'est une nation normale. Mais un jour, ça va devenir une nation réveillée, née d'en haut. Et je me réjouis de ce jour-là. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je vous ai au moins stimulé. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que j'ai dit. Mais je m'attends aussi, si vous avez des questions, je vous éclaire volontiers, comme vous voulez.
C'est concernant Armageddon. C'est quand même le final. C'est-à-dire que la terre va être roulée comme un rouleau. Il y aura la destruction. Et après cela, la nouvelle Jérusalem descendra.
Oui, alors, c'est pas faux. Ça se suit, mais pas forcément aussi régulièrement ça, parce que Armageddon, ouais, ce serait dans un schéma pré-millénaire à la fin du millénium, avec toutes les nations qui viennent contre le Seigneur.
Oui,
et le Seigneur intervient en faveur de son peuple. Ouais.
Parce qu'il détruira la terre par le feu.
Ça, c'est après, c'est avec le jugement dernier. Ouais.
Voilà. Ouais. Alors, c'est un petit peu.
Oui, mais c'est pas une bataille. C'est pas une bataille où Jésus fait un punch contre les chars ennemis. C'est fini.
C'est-à-dire que ça s'arrêtera à un certain moment.
Non, il n'y a même pas ça. Les nations, il faut lire Joël. Hein. Il convoque les nations, elles croient qu'elles vont faire la guerre à Israël, et en fait, elles se trouvent devant le tribunal de Dieu. Elles sont jugées.
Ah oui, ils n'y arriveront pas jusqu'au bout, ça je le sais.
Ouais, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et Israël ne fera rien en tant qu'Israël. C'est le Seigneur qui sera le... C'est ça que je voulais dire. Israël, aujourd'hui, quand ils veulent se battre, ils envoient des drones, des chars, tout ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de drones, pas de chars israéliens, c'est le Seigneur.
Les 400 missiles qu'ils reçoivent régulièrement, c'est à la main de Dieu quand même là. Hein.
Ah oui, si. Bon, ils ont aussi leur technologie. Ils sont bons. Hein. Oui, alors il y a des drames sur Terre avec les deux tiers de l'humanité. Oui, avec
l'humanité, c'est pas...
Oui, je crois que c'est l'humanité, oui. Mais là, de nouveau, on navigue un peu dans les eaux complexes de qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'Apocalypse. C'est compliqué parce que nous, on le lit des fois de manière linéaire, mais on a les sept trompettes, les sept coupes, etc., qui sont très cycliques. Et on est face à une pensée complexe. Il faut réaliser que l'Apocalypse est construite de manière complexe, mais bon, comme beaucoup dans la Bible, est construite de manière complexe. Et nous, on lit souvent de manière linéaire. Et donc, le problème, c'est que du temps de Jean ou des temps des auteurs de la Bible, on n'était pas obsédé par la linéarité que nous, on a. Hein? J'ai lancé un pavé dans la mare, mais je ne vais pas lancer un débat. Mais moi, je pense que les six jours de la Genèse ne sont pas six jours consécutifs. Ils sont ces deux triades qui se répondent l'une à l'autre. On a une construction poétique. Parce que c'était typique de l'époque. On a l'habitude de penser comme ça. Les pensées en chiasme, vous savez, un parallélisme où un premier terme répond, un dernier terme répond au premier, un avant-dernier au deuxième, et puis le cœur de la pensée est au centre de la construction, c'est flagrant. Vous lisez le prologue de Jean, les premiers versets, les 18 premiers versets de Jean, c'est complètement concentré sur le salut par la foi, par exemple. Et donc la Bible est très construite comme ça, mais nous on lit souvent zout comme ça, parce qu'on est occidentaux, thèse, antithèse, synthèse, on apprend ça à l'école, on lit A, B, C, D. On a de la peine à faire A, B, C, B, A. Voilà. Mais chez un romain, si vous avez fait un peu de latin, les phrases sont construites comme ça. On pensait comme ça. Donc nous, on doit faire tout un travail parce que les destinataires premiers de Jean et autres, c'était les gens qui pensaient comme ça. Donc nous, on doit faire un travail de se dire, mais comment est-ce que les gens ont compris le texte, devaient comprendre le texte au départ pour que nous, qui sommes dans une autre culture, nous le comprenions. Voilà, c'est vraiment le travail de l'exégèse. Ouais. C'est clair que si quelqu'un veut se former, il y a des lieux de formation, on apprend à faire ça. Après, il y a des bons ouvrages qui peuvent nous aider sur le sujet, des bons commentaires. Peut-être pas purement sur cela, mais ça attire déjà notre attention sur les structures de pensée, etc. Il y a le livre simple d'Alfred Kuhn, « Comment interpréter la Bible ?» Très intéressant. Et puis après, vous pouvez lire un bon commentaire qui fait un bon travail là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un... Voilà. Oui, je crois que Dieu nous demande. Alors, je pense que chacun peut lire la Bible pour soi et recevoir du Seigneur l'essentiel pour sa vie. Pour être sauvé, ça, on n'a pas besoin d'être un théologien. Mais Dieu aussi appelle et équipe des personnes particulières pour des différentes œuvres dans l'Église. Et le travail de présenter la parole de Dieu et de l'expliquer, c'est aussi un don qui est donné à l'Église. Voilà. C'est pour ça qu'en tant que pasteur et en tant que prédicateur, je plaide fortement pour quelque chose que je n'ai pas fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire la prédication textuelle. J'en parlais avec Benjamin comme ça, mais j'en parle avec tout le monde. Si un pasteur ne parle que de thèmes, il n'est pas pédagogique pour que son Église apprenne à lire la Bible. Parce que si, alors je sais bien, ça peut arriver, hein, faire du thématique, tout à fait. De toute façon, il y a toujours un thème qui sort de ce qu'on dit. Mais prêcher le texte et montrer qu'est-ce que je fais avec cette parabole, qu'est-ce que je fais avec cette prophétie, qu'est-ce que je fais avec ce récit, comment est-ce qu'il m'a parlé, comment est-ce que je trouve qu'il devrait nous parler, ça explique aux gens comment eux, quand ils vont tomber sur un récit, une parabole, ils doivent procéder. Il y a un effet par l'exemple qui est nécessaire si on veut que l'Église se construise avec des gens qui savent lire autre chose que juste un verset par jour reçu par Top Chrétien, qui est très sympa pour ça, mais je veux dire, ou d'autres moyens où je reçois par l'Alliance Biblique Française un verset par jour, c'est sympa, mais on ne construit pas sa théologie à coup d'un verset. Il faut lire des passages entiers, comprendre la dynamique, et c'est vrai que c'est extraordinaire. Après, c'est des richesses et des trésors infinis. Donc je ne suis pas en train d'opposer les choses, mais je suis en train de dire, voilà, apprenons. Puis je pense une lecture attentive du texte, si on est attentif, tiens, l'auteur il parle d'une chose, et puis il le reprend là, puis essaye de le voir. Il n'y a pas toujours des chiasmes, il n'y a pas toujours des... Mais les parallèles sont connus, on les connaît dans les psaumes, dans les proverbes, bon, ils sont évidents. Il y a des parallèles un peu plus complexes des fois. Mais je vous recommande de lire des bons commentaires, des bons ouvrages sur un sujet, sur un auteur biblique, de travailler dessus. Puis bon, dans l'Église aussi. Hein. Je sais que l'étude biblique, c'est plus grand, c'est pas vraiment la soirée à succès en général. Il y a déjà 25 ans, le pasteur Dubuis de La Rochette à Neuchâtel avait publié l'éloge funèbre, non, l'annonce funéraire de l'étude biblique. C'est assez provoque, mais je pense que sans qu'on revienne, il faut sortir des formules du vieux temps, il faut trouver d'autres manières, mais il y a des manières quand même, je pense, dynamiques d'étudier les textes. Voilà. Ça, j'ai pas toujours réponse, hein, je vais essayer de répondre. Mais...
Ouais, je me permets de poser une question que je t'ai déjà posée il y a une année et demie, peut-être, ouais. Et à laquelle tu as répondu, donc c'est pas un reproche.
Alors j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
Non. Par email. Mais en fait, juste pour redonner le contexte, j'avais lu l'histoire des Juifs ashkénazes. Enfin, donc j'étais sensibilisé par cette opposition totalement hors norme sur une grande durée et à beaucoup d'endroits. Et puis après, on sait aussi la Shoah. Mm-hmm. J'ai lu, vu des livres, la liste Schindler, etc. Et puis, c'est dans ce contexte-là, enfin, je pense toujours à l'année 1942 comme référence où il n'y avait pas d'espoir pour ces Juifs qui se faisaient massacrer. Il y avait aussi le grand moufti de Jérusalem, copain avec Hitler. Et donc, si Hitler continue un petit peu avec un certain succès, tous les Juifs d'Afrique du Nord y passaient. Ouais. Enfin, bref. Et puis, c'est dans ce contexte-là que 5 ans après, il y a la création d'Israël et je compare ça un peu, c'est comme si on était venu ici puis qu'il y avait un cadavre quand on arrive ici puis quand on sort il y a un gars qui marche avec nous, donc il y a un contexte, c'est aussi émotionnel si on veut, et il y a un côté de miracle qui est fabuleux. Tu as parlé de la puissance d'Israël militaire, à cette époque ils n'avaient pas de puissance. Non. Et quand le jour de la création d'Israël, qui était un jour décidé par les Anglais, puisqu'ils ont dit « on sortir », je ne sais pas, c'est le 14 mai 48. Ce jour-là, il y a 5 armées qui refusent et qui déclenchent. Et donc, ce qui s'est passé là est du domaine du miracle. Mm-hmm. Et puis, j'ai été sensibilisé par la préface de la Bible du rabbinat français qui soulignait cette coïncidence que j'ai citée justement avant de Amos 9. C'est la lecture du jour, on va dire. Je vous ferai revenir dans ce pays. Et puis c'est là que moi j'avais aussi eu l'occasion de donner un message et j'ai dit mais ça c'est un signe. Moi ça me réjouit. J'attends. Il y a aussi des sentiments, mais oui. Quand il y a cette douleur de devoir pour Israël et ça c'est pour moi c'est aussi réjouissant pour dire mais la Bible c'est. On y croit, on a la foi, mais en même temps, de temps en temps, on voit des accomplissements. Oui. Et la chose, c'est-à-dire que c'est un signe de Dieu. Et la question que j'ai posée indirectement, j'ai dit, mais est-ce que cela vient de Dieu, ce jour-là, ce retour, ou est-ce que c'est des hommes? Pas dans le sens comme si on dirait le Brexit, est-ce que c'est de dos des hommes? Non, pas ça, Brexit, voilà, faites comme c'est vous voulez. Mais j'entends dans le sens côté miraculeux. Alors, c'était un peu provoquant. Et puis, je t'ai écrit pour te demander... Si en disant ça, j'étais dans la ligne, ouais. Et puis tu m'as répondu, en gros, oui, on peut voir, je ne sais plus, mais enfin, oui, on peut le voir comme ça. Voilà. Alors je repose la question quand même.
Voilà, autant qu'on peut dire, ouais, je ne sais pas, moi je crois qu'il y a une grâce de Dieu, une protection de Dieu pour son peuple. Je veux dire, ces victoires d'Israël, surtout en 67, 48, 56, 67, 73, c'est vraiment des grâces. Tout en se disant que ça ne veut pas dire que tout ce que fait Israël est juste et qu'ils ont des bonnes motivations dans tout ce qu'ils font. Et il faut quand même réaliser qu'il y a des mouvements, il y a des réalités humaines qui sont liées au péché, voilà. Mais toute la tension que je vois, moi je fais certain, parce que moi je vois quand même, bon, on n'est pas de la même génération, mais on a connu les années 80 et tout, où Israël c'était très fort, quoi. Et les chrétiens parlaient du retour de Jésus, c'était pas tous les jours, mais presque. Donc on ne savait pas si Jésus reviendrait pas finalement avant l'an 2000. Moi j'ai un pasteur qui disait, je pense qu'il viendra avant l'an 2000, voyez, on était dans ces trucs-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu tellement aussi de, comment dire, spéculations précises, fausses. Le livre de Hal Lindsey, L'agonie de notre vieille planète, vous pouvez l'utiliser pour caler une bibliothèque, ça peut faire tout ce que ça a comme valeur théologique. Hein. Elle a changé d'épaule, elle a dit qu'il y a une alliance russo-islamique. Il reste dans son entêtement de dire des bêtises, et surtout beaucoup d'argent. Et puis il y a beaucoup de chrétiens, je crois, qui ont été déçus, parce qu'on a tellement parlé des temps de la fin d'Israël, et puis on a dit plein de choses, des interprétations sur la tache de vin de Gorbatchev, la couleur de la cravate de Nixon, ou je ne sais pas quoi, en essayant toujours de trouver des versets bibliques qui prouvaient. Je ne suis pas en train de dire que c'était toi du tout, hein, mais je trouve que dans le peuple de Dieu, les gens ne veulent plus trop entendre parler du retour de Jésus d'Israël, parce qu'ils ne veulent pas de cette spéculation, ils en ont eu marre. Et je pense qu'on est dans... Il faudrait revenir, retrouver un discours sur les temps de la fin qui soit prophétique, où on ne fasse pas de la géopolitique de bistrot, ne voyant qu'un problème et pas l'autre, etc. Mais alors, j'ai envie de dire, Dieu, s'il permet la reconstitution d'Israël en vue d'un réveil spirituel, on peut se dire, ben oui, il y a une préservation de la part de Dieu, mais il y a un avertissement. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois que le retour d'Israël est un signe des temps, mais la permanence d'Israël dans sa terre a toujours été conditionnelle, même si la promesse ne l'est pas. Et il y a quand même eu deux fois où Israël ne s'est pas tourné vers le Seigneur et il a perdu pour un temps sa terre. Alors ma prière pour Israël, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. C'est ma prière. Et j'espère, et il me semble qu'avec les juifs messianiques et tout, on a plutôt le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre au niveau de cette renaissance spirituelle. Mais je suis conscient du danger. Et dans mon intercession pour Israël, je prie qu'Israël ne laisse pas passer sa chance. Parce qu'il y a un vrai enjeu, il y a un enjeu, un appel à la repentance, comme Jésus qui a dit « le royaume arrive, repentez-vous ». Et je suis tout à fait confiant et heureux de me dire « ça va aller », mais quand même, il y a quelque chose qui manque. Et c'est, heureusement, ça me fait prier, voilà, je reste. Mais ce n'est pas scellé, il faut que le peuple juif, dans son ensemble d'ailleurs, pas que les gens en Israël, mais le peuple juif, dans son ensemble, comprenne qui est son Dieu. Et on n'est pas encore... Je veux dire, on peut toujours parler de quelques braves religieux qui aiment Dieu et qui cherchent... mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout. Et je disais toujours, si vous allez à Tel Aviv et vous y mettez Ézéchiel, Jérémie ou même Jésus, ça gueule, hein. Parce que c'est Sodome et Gomorre, hein, Tel Aviv. Il y a tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez pas surtout. La drogue, les trafics, la corruption, avec l'avenue des Russes, c'est devenu terrible. Voilà, vous avez toutes sortes de... Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu voudrait de son peuple. Mais nous non plus, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux chez nous. Mais je veux dire, voilà, si on a un idéal de ce qu'Israël devrait être animé par l'esprit, ben, il y a encore du boulot. Alors peut-être certains quartiers de Jérusalem, ça peut être sympa, mais voilà, il y a toute une partie du pays, c'est juste la foire, l'alcool, les femmes. Oui, l'enjeu est là. Ouais, voilà. Oui, et puis c'est peut-être pas une Shoah non plus. Non, puis en même temps, c'est ce qu'on a dans les prophéties, il y a quand même un moment de crise. Israël est poussé jusque dans ses derniers tranchements, jusqu'au moment où il craque, mais c'est comme avec nous, hein, le Seigneur, il nous... Et pour nous amener à la conversion, il a bien dû brûler quelques ponts, nous ôter quelques fausses sécurités pour qu'au secours, on s'accroche à la croix. Et donc je pense que c'est ça pour Israël. Alors par quel chemin? C'est vrai que peut-être nous, les pagano-chrétiens, on n'est pas bien placés, peut-être les juifs messianiques sont mieux placés pour ça, parce que Dieu utilise des... Voilà. Moi, je reste avec plein de questions et d'attentes, tout en étant confiant. Mais voilà, et c'est normal qu'on ait... Paul parle de douleur, d'accouchement, hein, de trucs. C'est normal que face à la réalité d'Israël, et puis de ce qui menace Israël, mais aussi... Moi, j'ai envie de dire, parce que souvent, dans les milieux sionistes avec lesquels je suis proche, on parle toujours en géopolitique comme dans les années 60, on parle des pays arabes ennemis, mais le plus grand ennemi d'Israël est intérieur, hein. C'est le péché. Et ça a toujours été le cas, hein, chez les prophètes, toujours le problème est intérieur. Jésus n'a jamais parlé, pas beaucoup parlé des Romains ou des Grecs. Hein, hein. C'est aussi vrai en Suisse, absolument. Mais je veux dire, souvent on pense à Israël qui sera en conflit avec les nations, Armageddon et tout ça, c'est absolument, ça fait partie du chemin, mais l'appel des prophètes envers le peuple d'Israël, comme envers nous, c'est circoncisez votre cœur. Et ce qui ferait tomber Israël, vous savez, j'ai entendu une fois un arabe, je ne sais plus, un syrien, il a dit, si on attaque Israël, c'est pas en 4 jours qu'on perd la guerre, c'est en 4 heures. Vous réalisez la superpuissance israélienne qu'il y a sur le plan militaire, et ce qu'il y a en face, qui est mauvais. Sauf pour la guérilla, qui est terrible. En 48, c'était complètement l'inverse. Mais maintenant, je veux dire, Israël, ils ont leurs ogives à Dimona, personne n'ose vraiment le faire. Vous avez remarqué, la dernière proposition de paix de Trump, on peut discuter de la valeur du truc, mais qui va très dans le sens des Israéliens et pas du tout des Palestiniens, de toute façon, ils n'ont pas voulu se parler, bref, voilà. Qui a protesté dans les pays arabes? Personne. Oui, mais c'est surtout, non, ça montre la vérité, c'est que les pays arabes n'ont jamais soutenu les Palestiniens sérieusement. Ils ont une rhétorique pour leur propre peuple, pour les détourner des problèmes intérieurs, en disant « Israël est notre ennemi, blablabla », mais dans les faits, avec les milliards de pétrodollars, vous imaginez, les Palestiniens pourraient tous être millionnaires, hein, et on parle de réfugiés, trucs comme ça, je veux dire, si les pays arabes, et je parle des Émirats et tout, voulaient vraiment aider, ils pourraient. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont gardé ce chancre pour animer, c'est des raisons politiques. Hein. Mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a aucune solidarité aujourd'hui, parce qu'ils sentent bien que la balance tourne, et puis que leurs alliances avec Israël sont plus importantes, notamment l'Arabie Saoudite, qui a très très peur de l'Iran. Si on fait un peu de géopolitique, je ne vais pas en faire trop. Entre autres, mais moi je pense qu'on... On ne peut pas dire qu'il y a vraiment eu un soutien. Alors au début, peut-être l'Égypte un peu, mais quand ils pensaient pouvoir vaincre Israël, mais dès qu'ils n'ont plus la puissance militaire de vaincre Israël, eh ben, ils jouent d'autres cartes, quoi. Donc on est dans le monde des hypocrites, là, complètement, je veux dire. Parce que moi, je pense que si quelqu'un était vraiment solidaire et palestinien, il gueulerait, il dirait quand même. Voilà, donc il n'y a personne qui le fait. Mais ce qui montre aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui... Voilà, il y a un peu une hubris qui risque d'arriver, c'est un sentiment de supériorité de la part d'Israël ou du gouvernement israélien qui fait qu'ils ne vont plus faire attention du tout aux droits des Palestiniens. Il y a quand même des lois qui maintenant veulent que ce soit un État juif et que les Arabes aient de moins en moins de droits. Il y a quand même des choses un peu embêtantes si on est un démocrate et puis si on croit que nos frères en Christ arabes ont aussi le droit de vivre en Israël. C'est compliqué. Non, non, mais... Ah oui, non, mais c'est tellement mélangé, c'est tellement complexe. Tu as raison, ils en profitent bien, et puis il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui ne sont pas malheureux d'être israéliens. Donc. Mais je veux dire, il faut réaliser qu'il y a aussi du racisme en Israël, il y a aussi... C'est pas juste des anges qui sont gentils avec les Palestiniens, il y a des choses dures qui se passent. Et on est d'accord qu'en face, il y a une propagande, une folie. Donc dans ce mélange-là, il y a besoin du Saint-Esprit, il y a besoin du Seigneur. Donc moi, toutes nos analyses sont courtes parce que on est face à une complexité. J'ai été bouleversé et touché en visitant, peut-être je vais vous donner quelques exemples, juste pas de géopolitique, mais peut-être de certaines pistes de solutions. J'ai été en Israël il y a 22 ans, en 98, avec Agape Tour, on a fait un tour, et on a été, à l'époque, il n'y avait pas encore la deuxième intifada, et Israël s'entendait bien avec l'autorité palestinienne. Hein. Et on est allé à Bethléem, à l'école biblique de Bethléem, et là, on a vu des chrétiens palestiniens, évangéliques, hein, qui souffrent. Parce qu'il y a des juifs chrétiens palestiniens qui leur disent, vous n'avez rien le droit de... des chrétiens juifs qui vont dire aux palestiniens, vous n'avez pas le droit d'exister, vous n'êtes pas un peuple, vous n'êtes rien du tout. Et puis ils sont frères en Christ. Alors un des responsables de l'école prend des palestiniens chrétiens, des juifs messianiques, et ensemble, ils vont dans le désert et ils se parlent l'un à l'autre. Ils visitent le Yad Vashem, ils visitent le village où les Israéliens ont tué les femmes, les enfants. Ils ont massacré un village en 48 pour terroriser les Arabes. C'est un crime qui est reconnu par tout le monde, par Israël en premier. Et ensemble, ils se disent, voilà, il y a eu du mal qui a été fait à l'un à l'autre. On a des souffrances terribles les uns par rapport aux autres. Mais maintenant, nous sommes unis en Christ. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser c'est contentieux. Et il y a 2 ans, à Larnaca, en Chypre, ces Palestiniens chrétiens et les Juifs messianiques ont fait, sous l'égide du mouvement de Lausanne, c'est le mouvement qui nous regroupe avec 500 millions d'autres évangéliques, un mouvement fondé par John Stott et Billy Graham. Et sous cette égide-là, ils ont fait une déclaration commune, c'est une espèce de préliminaire, en disant... Pour un Palestinien, l'État d'Israël, c'est la catastrophe. Pour les Israéliens, les Palestiniens, c'est un gros problème. Et mutuellement, il y a des choses où on n'arrive pas à se réconcilier. Mais il se trouve qu'on est des enfants de Dieu, que Jésus est notre unité. Comment est-ce qu'on peut dépasser ce conflit en Christ? Comme je disais, l'un ou l'autre, c'est vraiment là que Jésus est la réponse. On dit que c'est très simple, Jésus est la réponse. Mais là, Jésus serait peut-être... Est-ce que les chrétiens pourraient engager des chemins de réconciliation ou d'apaisement qui sont peut-être impossibles autrement que par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, après, il y a des gens qui critiquent, qui, voilà, parce qu'ils ne supportent pas l'idée que les Israéliens fassent la paix avec d'autres, mais moi, je crois que c'est jouable. Mais il y a un exemple qui me semble prophétique là, à suivre. Voilà. Oui, normalement, il n'y a plus de juifs et grecs, ni d'hommes et de femmes, ni d'esclaves, ni d'hommes libres en Christ. On devrait en Christ dépasser même les différences, hein, différences non dépassables dans la société. Donc on se dit, ça devrait être ça, quoi. Alors je ne sais pas si cette entreprise va arriver quelque part, mais il y a un début de quelque chose qui me semble très chrétien. plutôt que de dire, ben moi je joue la carte pro-israélienne contre la carte pro-palestinienne, mais on sait très bien comment ça va. Moi, typiquement, quand je suis dans des cercles pro-palestiniens, pro-israéliens, je joue un peu aux pro-palestiniens pour contrer. Et puis quand je suis dans des jeux pro-palestiniens, je suis sioniste. Et puis j'aime bien de temps en temps prendre le contre-pied et dire attention. Et puis ne nous emballons pas, c'est plus compliqué que ça. Voilà.